Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une femme lumineuse qui s'appelle Sandra Meunier, alias l'elfe Annabelle. Je crois que dans chaque épisode, je vous dis combien je suis heureuse des rencontres que je vous propose avec des personnes de tous horizons, parce qu'elles nous apportent tellement de valeur dans ce qu'elles partagent que je ne peux qu'être reconnaissante de toutes ces opportunités. Et cet entretien avec Sandra m'est cher parce qu'il explore l'une des émotions les plus profondes qui soit, c'est la joie. Et plus qu'une art-thérapeute, Sandra se qualifie de docteur de la joie, justement, respirateur d'hôpital. Elle est fondatrice de l'association Nétoile, qui est une association d'intérêt général, avec laquelle elle accompagne par la joie, depuis presque 20 ans, des personnes en fin de vie dans les services de soins palliatifs et de cancérologie. Sandra a créé des spectacles, des conférences avec lesquelles elle n'a de cesse d'informer sur l'importance de la fantaisie, de la poésie et du sourire dans le mieux-être des personnes hospitalisées. Alors nous allons explorer ces différents sujets avec Sandra et nous poser la question : est-ce qu'il est encore possible de vivre la joie au seuil de la mort ? Bonjour Sandra.
Bonjour.
Alors, j'ai toujours une question rituelle en début d'épisode. Est-ce que vous pourriez nous partager le souvenir de votre premier contact avec la mort ? Qu'est-ce que ça vous a laissé comme émotion ?
Alors, le premier souvenir de la mort directe, c'est ma chienne. Et ça a été terrible. Ça a été terrible d'imaginer sa mort. Je crois que c'est ça, la première mort. Et en fait, c'était une grande souffrance, donc il a fallu la faire piquer. Et je me souviens avoir beaucoup pleuré. Mais je pense que ça, c'est déjà la deuxième expérience. La première expérience, en fait, c'est le questionnement, c'est l'interrogation. Et j'étais encore beaucoup plus petite, parce que là, j'étais au CM2. Et encore plus petite, je pense que je devais avoir 6-7 ans. Je me souviens très bien du moment où j'ai interrogé un adulte de ma famille. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Et j'ai senti qu'il y avait un vide, qu'il y avait une non-réponse. Et ça me semblait incroyable qu'un adulte n'ait pas de réponse. Je ne dis pas qu'il n'a pas donné de réponse. Je ne me souviens même plus la réponse qu'il a pu me donner, d'ailleurs. Mais je me souviens que c'était compliqué. Et là, ça a été un... J'ai senti que s'était passé quelque chose en moi. J'ai jamais oublié quand même ce moment où j'ai posé la question. Je me souviens très bien du contexte. On était dehors, dans la pleine nature. Et je me suis dit, tiens, il y a un mystère.
Alors, vous n'avez de cesse de rappeler combien la vie est un cadeau précieux et qu'en ayant conscience de la mort, eh bien, on accroît notre compréhension de cette préciosité de la vie. Et vous avez eu vous-même un accident à 20 ans qui aurait pu être fatal. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez réfléchi à qu'est-ce que mourir et que vous avez pris une décision qui a changé le cours de votre vie ?
Oui, la question de la mort date de très longtemps. On voit cette première question quand j'ai 7 ans. Et après, je me suis vraiment intéressée à la question de la mort pendant toute mon adolescence. En bref, c'était quelque chose qui était... C'était ce grand mystère. Maintenant, par rapport au lien avec la vie, la préciosité, alors c'est certain qu'avoir eu l'expérience dans mon corps, cette expérience quand même terrible, de se dire que oui, on peut mourir là d'un moment à l'autre. Et à 20 ans, c'est pas banal de se dire qu'on peut mourir, mais d'en faire l'expérience. Oui, je pense que ça a conditionné mon futur. Et je pense que j'avais quand même conscience déjà de la préciosité de la vie. Mais là, ça a pris une autre dimension, bien entendu. Et surtout, C'est ce qui m'a donné le goût de vivre, en fait, de vivre pleinement ma vie. Mais il m'a fallu, ça peut paraître fou comme histoire, mais moi je n'en reviens toujours pas, pourquoi il m'a fallu 7 ans pour vraiment intégrer le fait que j'avais failli mourir. J'avais bien vécu l'expérience, mais 7 ans plus tard, je me suis dit, mais j'ai vraiment failli mourir. Je ne sais pas pourquoi il m'a fallu autant de temps. Et là, pour le coup, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que vivre? Et j'avais l'impression de ne pas être dans mon axe de vie à 100%. Et moi, la question de l'utilité dans la vie, la question de qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, c'est une question qui m'a hantée mais depuis que je suis jeune. Je ne savais pas pourquoi j'étais venue, qu'est-ce que je vais faire. Et en fait, cette question est devenue vraiment aiguë. Et comme j'avais vécu l'expérience où j'ai frôlé la mort, je me suis dit, mais en fait, si je ne sais toujours pas pourquoi je suis là, si je ne suis pas pleinement dans ma vie, je suis morte aussi. Parce que qu'est-ce que vivant est mort? Et bah, de ne pas être à sa place, c'est être morte. Donc, ça m'a donné un goût de vivre. Et je me suis dit, mais mince, j'ai vécu cette expérience et je suis encore morte 7 ans plus tard quelque part, mais il faut que je fasse ma vie. Et au moment où j'avais cette prise de conscience, mais fulgurante, c'était au moment où j'ai entendu parler d'art-thérapie. Et en 2 mois, j'ai tout quitté. Et je me suis formée en art-thérapie parce que je me suis dit, là, ça, c'est mon axe de vie.
Qu'est-ce qui se passe justement quand on a cette fulgurance, cette certitude d'être au bon endroit pour soi ?
C'est énorme ce qui se passe à ce moment-là. Et je trouve que c'est très intéressant qu'on parle de la mort et qu'on parle autant de la vie en même temps. C'est-à-dire que pour moi, c'est lié. Et ce moment où je réalise que je vais devenir art-thérapeute, que ça, c'est ma vie, enfin, c'est un instant... En fait, c'est immense. Je pense que oui, je sentis que tout mon être était en résonance. Enfin, il y avait un alignement, mais j'étais alignée. En fait, pour moi, être vivant, c'est être alignée. Et j'ai senti mon cœur immense. Et je me suis dit, mais bien sûr, c'est ça. Mais je souhaite à tout le monde de vivre ces fulgurances, parce que je pense que ça facilite vraiment la vie quand on sait pourquoi on est là. Et après, j'ai compris ça en accompagnant les gens qui allaient mourir, que les gens qui mouraient le mieux... Et d'ailleurs, Axel Kahn, je trouve qu'on a une très bonne démonstration, hein, une mort apaisée. C'est quelqu'un qui a mis du sens dans sa vie. C'est quelqu'un qui a pleinement vécu, qui se dit, ben moi, j'ai vraiment donné, j'ai vécu, je peux mourir. Attention à quand on n'a pas bien vécu, quand on n'a pas assez donné, quand on a l'impression d'avoir vécu à moitié. Je pense que c'est là où ça peut être compliqué.
Oui, ça, c'est vraiment un constat qui est partagé par tous les accompagnants de personnes qui vont mourir, hein. Vivre pleinement pour bien mourir ou pour mieux mourir, en tout cas. Et ça nous conduit hein, à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de notre vie, quel est son sens et qu'est-ce que veut dire vivre pleinement. Alors dans cette vie remplie d'art thérapeute qui est la vôtre, vous allez créer un personnage et vous allez créer l'association Nétoile. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est arrivé ce projet et de quoi il s'agit en fait ?
Oui, alors quand je deviens art thérapeute, j'ai ce personnage qui est là en moi, parce que je fais du clown. Et quand je commence à travailler à l'hôpital, c'est un poste d'animation, donc qui n'est pas mon poste d'art thérapeute, mais en fait, ça me permettait de rentrer à l'hôpital. Et c'est là qu'on me demande, mais j'ai pas un personnage. Et c'est là que je suis venue en Annabelle. J'avais un personnage elfique, drôle, mais profond, pétillant, mais en lien avec la nature. Et je me suis dit, tiens, je vais l'amener. Et quand je l'ai amené, tout s'est ouvert. Les patients m'ont raconté leur désarroi. Et puis aussi, je pouvais transmettre plus de joie. Enfin, je pouvais donner de l'espoir. Enfin, il s'est passé toute une ouverture extraordinaire. Et là, j'avais encore l'identité quand même forte hein, de clown. Et j'ai changé ça. J'ai changé ça, hein, je crois que c'était 7 ans plus tard. Je me suis dit, bon, j'arrête de dire que c'est du clown parce que c'est pas fondamentalement du clown. Et c'est plutôt, il faut que je trouve une fonction qui soit à la fois poétique, qui soit profonde, qui soit exactement l'endroit où je travaille. Et je me suis fait accompagner. Et puis, je disais, mais il y a un lien avec les étoiles. Et il y a une personne qui est autour de moi, une amie, qui m'a dit, ben, une étoile. Mais je vais bien sûr, Nétoile. Parce que c'est pas les étoiles. Je sais que beaucoup de gens disent les étoiles. Non, c'est Nétoile. Et je dis bien sûr, je vais être une étoile. Pourquoi une étoile? D'abord parce que je sentais que j'avais un fort lien avec les étoiles, justement. Et je me disais, une étoile, c'est intéressant parce que c'est un point lumineux dans l'obscurité. Et c'est bien ce que traversent les personnes qui vont mourir. Hein. On est dans l'obscurité. Il y a un moment quand même d'obscurité ou quand on traverse une maladie. Et je dis, tiens, c'est un point de liberté aussi. c'est un point, on est au-dessus, une étoile est au-dessus. En fait, tout correspondait à ma pratique. Alors, j'ai fait un clin d'œil, bien sûr, avec une étoile, N-E-Z-T-O-I-L-E-S, né pour rappeler que ça venait quand même du clown, et que le clown, pour moi, c'était une pratique d'authenticité, pratique de liberté dans ma pratique artistique. Je me suis sentie tellement légère et profonde dans ce personnage que je dis, il ne faut pas oublier que ça vient du clown. Mais ce n'est pas que ça, c'est une pratique d'accompagnement, c'est une pratique d'art-thérapie, c'est de l'art soignant, comme j'aime bien dire. Je ne voulais pas que ça interfère avec le beau travail du clown qui existe par ailleurs, et je trouve que ce n'était pas exactement le même endroit. Je dis, bah, il faut être cohérent, si ce n'est pas vraiment du clown, pourtant ça vient de là, allez, nettoie. Et c'est super.
Alors, en fait, qui est cette Annabelle, qui est quand même un être fantastique? Pour moi, c'est la poésie, la liberté, la nature, l'enfant qui est en nous, quoi. Elle est merveilleuse comme créature.
Oui, et c'est la partie... parce que c'est une sous-personnalité de moi, cette Annabelle. C'est qui, Annabelle? C'est mon être. Moi, j'ai l'impression que c'est ma connexion la plus forte à mon âme. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis en Annabelle, je suis vraiment connectée à mes émotions. Et surtout, rien n'est grave. En fait, Annabelle me permet d'enlever la gravité. Donc, ce personnage, tout de suite, il est venu de la nature. Parce que moi, c'est l'endroit de ma grande joie. Il n'y a pas plus grande joie pour moi que d'être dans la nature. Et je me suis dit, tiens, je vais amener ça comme énergie auprès des gens qui vont mourir, je vais leur rappeler peut-être un des endroits où ils ont été les plus heureux. Et ce personnage elfique est très intéressant parce que c'est un personnage entre terre et ciel. Hein. L'elfe, il y en a qui le voient, il y en a qui le voient pas. Et j'aimais bien aussi ce côté mystérieux. Et d'ailleurs, il y a des patients qui m'ont dit, une fois, je me souviens très bien, j'avais rencontré une personne comme ça qui allait bientôt mourir, et en Annabelle. Et puis, il communiquait avec moi et après, il m'a dit, merci. Le fait de parler avec vous, ça me donne l'impression qu'on peut parler à un ange et j'ai l'impression de me connecter à d'autres mondes. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que c'est ça que je voulais amener. Je voulais amener un monde infini. Je voulais pas qu'on... Et c'est ça que me permet Annabelle. C'est en vrai, pour de vrai, j'amène un infini, j'amène à d'autres espaces et c'est ça qui m'intéresse. Et Annabelle, je dis toujours qu'elle est née sous un arbre. Et quand je raconte ça aux patients, parce qu'ils sont quand même curieux, ils disent « Mais vous habitez où ?» Je dis « Sous un arbre. » D'accord. Et finalement, au bout d'un moment, ils acceptent que je vive sous un arbre. Annabelle, elle n'a pas de convention sociale. Donc, je suis en amour tout de suite. J'ai les yeux grands ouverts, je vais voir une personne et je peux lui dire très facilement, assez rapidement oh, « Qu'est-ce que je suis bien avec toi, mais... » Je sens que... Et on peut tomber amoureux d'Annabelle, d'ailleurs, et puis Annabelle qui tombe amoureuse d'un patient. Enfin, je veux dire, c'est un endroit d'amour, un autre endroit où il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, j'aime bien être une grande amoureuse ouvertement. Et sans attache, en plus. Et on peut tomber amoureux. Pourquoi on peut tomber amoureux d'une Annabelle? C'est parce que c'est un personnage fantastique, donc c'est l'enfant intérieur qui s'ouvre. Moi, j'assiste à l'éclosion, enfin à la sortie de l'enfant intérieur. J'ai des personnes qui sont âgées et qui sont pas forcément en lien direct. Et puis après, ils tombent amoureux d'Annabelle. C'est bien, non? Moi, je trouve que mourir en étant amoureux, c'est super. Donc je lui dis d'accord.
Alors ça, je suis preneuse. Mourir en étant amoureuse, je croise les doigts. C'est vrai que pour moi, Annabelle, c'est vraiment l'être qui nous permet de nous reconnecter à l'émerveillement possible sur les plus infimes petites choses, sur les sentiments les plus subtils et qui sont finalement les plus grands parce qu'ils sont là.
Ah oui, c'est vraiment ça, mais j'aime ces petites choses. Et je pense que plus je travaille aussi, parce que c'est Annabelle va porter tout ce que Sandra travaille, et si je suis dans la délicatesse, si je suis dans les petites choses, si je suis dans les petites choses qui sont des grandes choses, si je suis dans relier à quelque chose de beaucoup plus vaste, eh ben je vais relier les personnes à ce qui est vaste. Donc je crois beaucoup à ce phénomène de miroir, c'est pour ça que vraiment pour moi l'accompagnement c'est d'abord aller loin en soi, et après mon personnage va porter ce regard sur les petites choses, justement. Et puis sur l'écoute aussi. Tiens, écoute. Oh, regarde. Mais c'est incroyable parce qu'on ne prend pas forcément ce temps. Et à l'hôpital, il peut y avoir un autre temps. Et là, on va étirer ce temps ensemble avec les patients. C'est un moment, mais délicieux. Et c'est là que se situe la joie, en fait. C'est quand on va étirer ce temps.
Et ces personnes à l'hôpital, qui est-ce qui vous recommande d'aller les rencontrer? Est-ce que ce sont les soignants qui vous disent « allez voir plutôt telle et telle personne, elle en a plus besoin que telle autre »
Oui, en fait, quand une étoile est dans un service, on fait partie de l'équipe. Et si c'est en soins palliatifs, on a accès à des réunions de service. Et là, les soignants nous disent « Ah, va voir un tel, tu sais, en ce moment, il va vraiment pas bien, il faut l'accompagner. » Et puis parfois, on nous dit « Oh non, on va surtout pas le voir, parce que alors là, c'est pas possible en ce moment pour lui. » Mais je me méfie de ces croyances. Et d'ailleurs... Parfois, quand les raisons pour moi me semblent pas assez justifiées, ou en tout cas on me dit, oula, tu sais, il va bientôt mourir, c'est pas le moment. Mais pourquoi ça serait pas le moment? Ou alors je sais pas pour quelle raison, mais par moment, les soignants, par mon grand cœur, veulent protéger leurs patients. Et je dis, ben, on va voir. Et par contre, je partirai tout de suite parce que je veux pas du tout déranger. Et c'est très intéressant parce qu'on voit des fois qu'il y a des soignants qui me disent « Ah bah va le voir, ça va être génial !» Et je me fais mais rejeter tout de suite, c'est pas possible. Et il y a des patients où au contraire, je vais me faire accepter alors qu'ils disaient « Ah non, lui c'est pas du tout possible, c'est un bougon, t'es loin de son univers. » Oui, mais et de son enfant intérieur, est-ce que je suis loin? On va voir. Et en fait, il y a quand même une partie de mystère. Donc, j'écoute les soignants et après, j'écoute. Mais après, j'agis peut-être un peu différemment, mais toujours en respectant le soignant, mais en me disant, tu vois, là, il s'est passé autre chose.
C'est ça qui est merveilleux avec l'être humain, c'est que la magie peut opérer là où on ne s'y attend plus, là où on ne s'y attend pas, ou sur des territoires insoupçonnés.
Voilà, c'est ça.
Donc, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, vous dites que le regard à l'entrée d'Annabelle dans la chambre de la personne est fondamental. Pourquoi cet instant-là du regard est-il si fondamental?
À mon avis, c'est l'accord va se faire de l'alliance thérapeutique, en fait. Ça va se faire dans ce regard. Et c'est pour ça que ce regard, il peut durer longtemps. On va se jauger, s'évaluer. Et alors, c'est prendre pleinement le regard. Et puis après, quoi, faire un regard d'amour, faire un regard joueur, faire un regard triste. Et là, il y a plein de possibles. Est-ce que je prends un regard en empathie? C'est-à-dire que si une personne est vraiment triste, en prenant ce regard, je vais m'attrister avec. Donc ça va être un phénomène de miroir. Ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir un regard triste et moi, je vais offrir le contraire, le pétillement, dire « Oh, mais tu es là !» Et réveiller, en fait, et aller contourner cette tristesse, l'entendre, mais dire « Viens, peut-être qu'il y a un autre chemin. » En tout cas, tout se passe dans le regard, mais vraiment. Alors, je dirais le regard et pas que, c'est aussi le sourire. D'ailleurs, en ce moment, je trouve que la période est très difficile depuis qu'il y a eu ce masque. Je trouve que ma pratique pour moi, mais bon, moi j'ai 17 ans d'expérience à l'hôpital, donc j'ai connu une qualité de liberté relationnelle, enfin, c'était extraordinaire. Et j'ai senti aussi que parfois, c'est un regard, mais c'est un sourire qui fait qu'on accepte. Et le sourire, parce que le sourire, c'est le meilleur qu'on donne à l'autre. Hein. On va offrir ce grand sourire. Et j'offre aussi une respiration. Mais là, comme il y a ce masque, on ne voit pas forcément que j'offre la respiration. Et parfois, ce qui fait l'accord avec une personne qui souffre à l'hôpital, avec ce personnage quand même extravagant, il faut savoir quand même, j'ai des tresses en l'air, je suis pailletée, je suis dans des couleurs lumineuses, c'est quand même particulier. Mais ça peut se faire en une respiration, c'est-à-dire que je respire, et la personne finalement, elle va me voir respirer, et au fur et à mesure, elle va prendre ma respiration. Mais s'il y a le masque, on ne sait pas que je respire comme ça. Donc pour moi, c'est beaucoup plus dur en ce moment, ouais.
C'est vrai que ce masque a vraiment modifié nos interactions avec les autres. Mais néanmoins, une fois que cette connexion s'est faite, qu'est-ce qui se passe? Je suis très curieuse. Est-ce que vous allez près de la personne? Comment est-ce que vous l'embarquez dans le voyage en fait, que vous allez lui proposer?
Et justement, il y a tout qui est possible et on ne peut pas du tout savoir à l'avance. Maintenant, s'il y a un accord... L'accord, ça se sent dans le sourire, justement. Un accord, c'est une détente du corps. On va dire, ça y est, c'est accepté. Mais c'est le début, parce que c'est accepté. Mais il va falloir quand même bien prouver pourquoi je suis là, à côté d'une personne qui est très malade ou qui va mourir. Enfin, il faut comprendre pourquoi je suis là. Donc, je vais poser des questions. Voilà. D'abord, je vais me présenter. Moi, je dis que je suis docteur de la joie, je suis assistante du moral des troupes, je suis respirateur d'hôpital. De donner des fonctions comme ça, ça montre que c'est un petit peu fou quand même. Et en même temps, c'est très profond et que ça rejoint l'autre là où il est. C'est pas, je sais pas, je suis danseuse des étoiles. Oui, d'accord, et alors, moi, je suis en train de mourir. Non, je suis docteur de la joie. Ou assistant du docteur d'ailleurs. Et ça, déjà, l'alliance thérapeutique va se faire aussi dans la manière de se nommer. C'est pour ça que je dis toujours en étoile, trouvez-vous des fonctions, mais des fonctions qui vont rejoindre l'autre, même si c'est un peu fantaisie, ça rejoint l'autre. Et à partir du moment où il y a cette présentation, la personne aussi, elle dit quelque chose. Si je dis je suis docteur de la joie, il y a parfois des personnes qui me disent, mais ah ben, ça fait bien longtemps que j'en ai pas. Ah. Et c'est là qu'il va y avoir l'écoute, j'appelle ça l'écoute créative, elle me dit ça, et donc c'est une... Et qu'est-ce que je vais moi lui répondre ? Et sans arrêt, ça va être une écoute très fine, elle me dit ça, alors je lui dis quoi ? Et là, il y a tout, il y a plein de possibles, il y a plein de chemins possibles. Je peux l'emmener vers la joie, mais si je te dis joie, toi tu me réponds quoi ? Et là, elle va me dire, peut-être, je sais pas, moi... souvenir. Et si je te dis souvenir? Et c'est comme ça qu'il y a une piste possible avec les mots. Mais parfois, ça va être tout autre chose en disant, ben, tu sais que la joie, elle est encore possible là, maintenant. Oui, enfin, ça m'étonnerait. Ah, si, si. Tu me fais confiance? Et voilà. Et là, il y a une autre piste. En fait, c'est comme si, je ne sais pas, il y a une centaine de pistes qui s'ouvrent en moi et je dois me dire en un instant, qu'est-ce qui est le plus juste pour l'autre? Quelle est la porte qui va s'ouvrir? Quelle est la bascule qui va permettre une reconnexion à son être profond? Parce qu'elle est là, la joie. Et trouver des espaces de joie, mais ça va être quoi? Et donc, c'est vraiment pas facile, ce moment-là. Mais bon, après, c'est l'expérience, hein. Et pour moi, une écoute créative, c'est-à-dire que c'est la fameuse écoute empathique, hein, ça peut être de la reformulation. La reformulation, c'est quoi? Une personne dit « Ah, je souffre en ce moment. »« Ah, tu souffres ?» Donc voilà, et c'est comme ça qu'on va avancer. Alors oui, je peux le faire un petit peu, cette reformulation. Et puis en même temps, si j'entends, si je comprends où est le nœud, le problème, ça va être une action. Mais une action, une proposition, eh bien alors ferme les yeux, où est-ce que tu es la plus heureuse? Voilà, une action possible. Ou une action possible, c'est la personne, elle me dit, bah, je me sens très seule. Ah, tu te sens seule? Attends, on va faire une expérience. Viens, on se prend la main, on se regarde et on va s'envoyer un grand regard d'amour. T'es prête? Bon, alors, vous voyez, ça va quand même très fort tout de suite parce que, en fait, si j'étais en Sandra, jamais je ferais ça. Hein. Je dirais pas à une personne, viens, on se prend les mains et on s'envoie de l'amour. C'est comme si dans notre monde de terrien, ça n'est pas possible. On ne fait pas ça aux gens. Mais je suis en Annabelle et moi, je suis elfe. Et comme j'avais dit, moi, c'est un raccourci vers l'amour. Alors, eh bien, vivons l'expérience d'amour. Et c'est ça que je propose. Donc, ça veut dire que quand je forme les étoiles, j'insiste bien sur cette qualité de... On va dans l'intime tout de suite. Est-ce qu'on peut être proche tout de suite? Est-ce qu'on peut proposer des actions dans une proximité de cœur? Mais c'est énorme. Imaginez que vous êtes à l'hôpital, que vous allez bientôt mourir, enfin que vous êtes seul, pas forcément visité, et il y a un être fantastique, merveilleux, et qui dit, viens, on peut faire une expérience d'amour, là, tout de suite. Alors, les yeux dans les yeux, mais sinon c'est d'amour avec soi, et sinon quoi? C'est d'amour avec les arbres, avec les oiseaux. Ah tiens, ça tombe bien, j'ai les oiseaux à te faire écouter, et je fais écouter les oiseaux. Et là, c'est le cœur qui s'ouvre. En fait, je pense qu'une des grandes solutions par rapport à la question de la mort, c'est l'ouverture de cœur. C'est qu'ils se sentent aimés ou alors qu'ils aiment. Mais ça se passe beaucoup au niveau de l'amour. Et mon personnage permet ça.
Et alors, est-ce que c'est ça la joie, l'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour de ce qui est?
Oui, très très belle question. Moi, je pense que la joie, c'est... Et c'est ce que j'expérimente. La joie, c'est la connexion avec quelque chose de plus grand. Alors, le quelque chose de plus grand, ben oui, ça peut être l'amour. Et pour certains, ils vont employer peut-être un autre vocabulaire. C'est pour ça que là, on parle à moi. Donc moi, je parle avec mes mots. Mais à l'hôpital, parfois, l'amour, le mot amour est beaucoup trop fort. Et il va falloir contourner. Et ça peut être... tout simplement, mais écouter les oiseaux, c'est un acte d'amour, c'est une... En fait, ça ouvre le cœur. Donc oui, je pense que la grande joie, c'est... D'abord, ça ne se décide pas, la joie, ça surgit. Hein. La joie, on ne peut pas dire, tiens, sois joyeux. Ben, non, ça ne marche pas comme ça. Ou expérimente une joie. Ben oui, mais ça veut dire quoi? Je vais la chercher où? Et d'un seul coup, non, c'est une expérience pour moi, la joie. Et c'est une expérience où on devient plus grand. Et une expérience où d'un seul coup... Mais c'est comme tout à l'heure, on parlait de la fulgurance le jour où j'ai appris mon métier, art thérapeute, j'ai eu quelque chose où je me suis sentie plus grande, je me suis sentie connectée à quelque chose de plus grand. Mais la joie, c'est ça, c'est d'un seul coup, on se sent plein. Alors, plein d'amour, bah oui, alors souvent, ça va ensemble quand même. Et surtout, en fin de vie, j'ai trouvé que, oui, c'est, ah oui, l'amour, connecter les gens, leur permettre de se dire je t'aime, oui, oui, le centre, pour moi, en tout cas, c'est l'amour.
Alors, quand on n'est pas une Annabelle ou une étoile, comment est-ce que vous proposeriez aux personnes qui nous écoutent, qui ont par exemple un proche en fin de vie, pour mettre ou remettre de la joie dans cette relation, dans cette période-là? Parce que c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, l'approche de la mort, c'est plutôt synonyme de souffrance, de peur, de tristesse, avec la perspective du deuil. Et imaginer de la joie possible à ce moment-là, ça peut paraître inaccessible. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous recommander de faire pour être nous-mêmes un petit peu une étoile pour la personne qui va s'en aller?
Ah oui, alors bien entendu, on n'est pas obligé d'être une étoile, heureusement, pour permettre aux gens de se connecter à la joie. Bien entendu. Moi, je parle de... Enfin, pour moi, ça facilite. Et ça facilite l'expérience, en fait. Alors, oui, pour les soignants ou pour les aidants, j'encourage ces expériences. Mais les expériences de simplicité aussi. Et c'est toujours ce que je fais, parce que je croise aussi beaucoup d'aidants hein, à l'hôpital. Et puis les soignants, bien entendu. Alors, les aidants, c'est être dans le moins possible d'émotions. Alors, pas facile, hein, quand on perd un proche, bien sûr qu'on est dévasté. Souvent, je dis, viens pleurer dans le couloir et après, tu reviens peut-être plus... Enfin, essayer d'être plus apaisé. Alors, je sais que ce n'est pas facile, sans mettre de culpabilité, bien entendu. Alors, ce que je propose à chaque fois, c'est par exemple une respiration. C'est quand je dis tiens, bah, inspire du centre de la terre, ça va passer par les pieds, la colonne vertébrale et ça sort par la fontanelle et tu vas inspirer jusque dans les étoiles et après des étoiles tu redescends, ça passe par la fontanelle, la colonne vertébrale et tu vas expirer dans la terre et je fais vivre l'expérience. C'est un conseil d'amis. C'est-à-dire que cette respiration, elle permet de se verticaliser. Je pense profondément. Et pour avoir vécu l'expérience, parce que bien sûr, moi aussi, je suis confrontée à la mort, je n'accompagne pas toujours en Annabelle, hein, parce que si j'ai un proche, alors je me verticalise. Et plus je sens que je suis très ancrée dans la terre, plus je sens que je vais loin dans les étoiles, plus je sens cette colonne vertébrale, je fais « wow ! Ah, ça commence à être bien !» Et c'est comme aussi, si je deviens... Et en fait, qu'est-ce que je fais quand je fais ça ? Je deviens plus grande. Et c'est ce que je suis quand je suis en Annabelle. J'ai toujours l'impression d'être beaucoup plus grande. Et c'est ce que je dis aux soignants ou aux aidants. Devenez plus grand pour accompagner quelqu'un qui va mourir. Verticalisez-vous. Alors ça, c'est vraiment un premier conseil. Et par rapport à la personne qui va mourir, justement, si pour vous, en tant qu'aidant, c'est d'être plus grand qui est le centre, et bien pareil pour la personne qui va mourir. Comment elle va se sentir plus grand? Alors, c'est cette question. Moi, je dis toujours, je reconnecte les personnes à ce qui est sacré. Donc, il faut reconnecter les personnes qui vont mourir à ce qui est sacré pour elles. Et on reprend l'histoire des oiseaux. Parfois, c'est les oiseaux qui est sacré. Parfois, c'est la relation avec Dieu. Bah, bien sûr, il y en a qui sont quand même dans une religion. Donc, les connecter bien à leur dimension religieuse, leur permettre d'expérimenter la prière si c'est nécessaire pour eux. Pour d'autres, c'est plutôt quelque chose de spirituel. Alors, c'est des pratiques méditatives. Il faut ouvrir des grands espaces d'intérieur. La méditation, mais alors... Enfin, j'ai l'impression que, de toute façon, mon travail de nettoyage pendant toutes ces années, c'était des pratiques méditatives. C'était autour des pratiques méditatives, créatives, on va dire. Mais à chaque fois, si j'associe la respiration, de fermer les yeux, de connecter de grands espaces ou de se relier à des êtres qu'on aime, ce sont des pratiques méditatives. Donc, le grand chemin, pour moi, c'est bien de permettre à la personne d'être en... Oui, de se recentrer sur ce qui est important pour elle par des pratiques méditatives de respiration, des choses comme ça. Oui, ça aide énormément. Et si, par exemple, elles ont beaucoup aimé voyager, et ben lui reparler des voyages de la Terre. D'ailleurs, ça me fait penser à une très jolie pratique d'une de mes étoiles. Alors, ce qui est fantastique, c'est que j'ai formé des étoiles. Et il y a une étoile qui a inventé une pratique. Et je trouve ça tellement merveilleux que je vous la donne parce que vous pourriez aussi le vivre avec les personnes que vous rencontrez, que vous aidez à mourir peut-être. Et c'était notamment une personne qu'elle va voir à l'hôpital. Et cette personne lui dit rapidement qu'elle est triste. Alors, une étoile l'interroge. Et la personne lui dit, mais en fait, je pense que je n'ai pas assez pris le temps de vivre, en fait. Je suis passée à côté. Et même quand j'ai voyagé, il dit, voilà, par exemple, je suis partie au Canada. Et même là, je n'ai pas pris assez le temps. J'aurais dû prendre plus le temps. Mais il est vraiment triste de ça. C'est un constat de sa vie en disant, j'ai pas été assez heureux, en fait, sur Terre. J'ai pas pris le temps. Alors, elle entend, il n'y a pas de réponse. Parfois, il n'y a pas de réponse. C'est un grand accueil en disant, ah, d'accord, tu penses ça? Ok. La fois suivante, quand elle vient, elle a une idée que je trouve tellement jolie. Elle a imprimé un paysage du Canada et elle avait le nom de la personne. Elle lui a fait carrément une enveloppe hein, avec le timbre, ça le dit. Et elle arrive dans la chambre, elle dit « Hey, j'ai quelque chose pour toi, t'as reçu du courrier. » Il fait « Ah bon ?» Et c'est une lettre du Canada. C'est une lettre de la Terre. Et cette lettre de la Terre lui disait... « Bonjour, je suis la Terre du Canada. Je voulais te dire combien j'ai aimé que tu foules mon sol, combien j'ai apprécié ta présence. Oh » Et alors, c'était une lettre d'amour de la Terre pour lui. Et là, il s'est mis à pleurer. Et ça a dégagé. Et... Enfin, j'ai trouvé que c'était un accompagnement extraordinaire. Après, il dit « Mais merci. » Et ça s'est renversé. Il avait pu sentir que si lui n'avait pas apprécié, peut-être que la Terre l'avait apprécié. C'était une réponse d'amour. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors voilà ce qu'on peut faire. Vous voyez, c'est vraiment entre l'imaginaire, et c'est toute la pratique d'accompagnement de l'étoile, entre l'imaginaire, la profondeur, l'audace. Parce qu'on n'aurait pas forcément pensé si on était en nous-mêmes. Mais là, on est en état de créativité, d'intuition, et ouais, y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc c'est ça que j'ai envie de dire. Si vous accompagnez des personnes qui vont mourir, il y a une chose qui est certaine, et je suis un témoignage vivant, c'est vrai ce que je vais vous dire. La joie est possible. Ça, c'est une certitude. Et la question, plutôt que de se demander, là, ça va être dur ce que je vais vous dire, mais plutôt que de se demander combien de temps il reste à vivre, c'est comment vivre ce temps. Alors, je sais qu'on est vraiment fixé sur combien de temps, mais comment vivre ce temps? Et donc, ça peut être, on peut faire le temps des merci. Dis donc, je me souviens, on a fait ça ensemble, mais merci. Tu sais que tu m'as beaucoup aidé. Et en fait, si on est dans les merci et qu'on remercie l'autre pour ce qu'elle lui a transmis, mais ça va aider d'abord la personne, elle va sentir toute la transmission qu'elle a été utile sur Terre, hein, en tant que maman, en tant que conjointe, je ne sais pas. Et ça va permettre aussi une chose, pour la personne qui va dire ces paroles d'amour, ça va faciliter le deuil, parce que mine de rien, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il sait vraiment combien je l'ai aimé? Et on peut se poser la question après, en disant « Mais mince, mais je sais qu'il le savait, mais je ne lui ai pas dit comme ça. » Ben là, du coup, dites-le alors, à votre façon, avec le lien que vous aviez. Mais le temps des merci, en disant « Ouah, tu sais que grâce à toi, maintenant, moi, je fais ça. » Parce qu'en fait, dans le deuil, on le sait bien, les intégrations qui se font après le deuil. Hein, un an, deux ans, on dit « La personne vit en moi, j'ai compris tout ce qu'elle m'avait transmis. » Eh bien, dites-le pendant qu'il est encore vivant. Dites-le. Et ça aide des deux côtés. Donc, je me suis rendu compte de ça et bien sûr, connecter la personne au monde de la beauté. Alors là, j'ai toujours dit que c'était une voie à part entière, c'est-à-dire la beauté de la musique. S'ils sont encore là-dedans, parce qu'on voit aussi qu'il y a des personnes qui ne veulent plus du tout de musique, c'est étonnant, c'est comme ça. Mais la beauté des paysages aussi, enfin, qu'est-ce qu'on peut offrir comme beauté dans ces instants? Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vie aux portes de la mort. Beaucoup de vie. Et beaucoup de vie à donner et à expérimenter. Alors, elle est là, la joie. La joie, c'est de se sentir vivant, vivant dans l'échange d'amour, vivant dans l'ouverture à quelque chose de plus grand, parce que oui, il y a quelque chose de plus vaste qui est en train d'arriver et on le ressent. La personne qui va mourir, elle le ressent. Et même l'aidant se dit, mais c'est incroyable, je sens... Et parfois, on peut le sentir qu'il y a quelque chose de plus vaste qui est autour. Donc c'est ça la joie, c'est sentir peut-être qu'on n'est pas ce corps fini et qu'il y a quelque chose d'infini. Ça c'est la plus grande joie. Et si on ne touche pas cet infini, c'est là où est la grande souffrance. Si on pense que tout s'arrête, que n'y a pas d'espoir et qu'il n'y a que le corps, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Et je ne suis pas dans une vision religieuse, je suis dans une vision peut-être même animiste. Est-ce qu'un arbre a une âme? Voilà, c'est de voir ça comme ça. Est-ce qu'on n'est qu'un corps ou est-ce qu'on a une âme? Tout simplement, est-ce qu'on pourrait simplifier les choses? C'est aussi simple que ça, hein.
Oui, c'est retourner à notre essentiel, en fait.
Mais c'est ça.
D'ailleurs, j'aimerais citer un très beau témoignage d'un homme que vous avez accompagné, qui m'a vraiment profondément émue. Il a dit « Vous m'avez proposé l'infini et j'ai accepté de vous suivre dans cet infini ». Je ne sais pas, vous qui nous écoutez, comment ça résonne pour vous, mais moi, c'est une phrase qui me bouleverse.
Ah, pour moi, quand il m'a dit ça, oui, il m'a dit, quand on s'est rencontrés, il faut dire qu'il allait vraiment très très mal. Et il était atteint d'une très grave maladie et sa femme avait vécu un AVC, il ne pouvait plus aller la voir. Enfin bref, donc c'était quand même, alors que la femme était toute sa vie, enfin, quand je le vois, c'était quand même une zone extrême de souffrance, à la fois physique, mais alors psychique, émotionnelle, c'était énorme. Et c'est vrai que je lui ai proposé une autre voie, mais ce qui est extraordinaire, c'est cette personne qui a accepté, oui, d'aller dans... Mais c'était infime, hein, c'était infime, il y avait un petit espace où on pouvait aller ensemble, et il a accepté. C'est comme ça que je l'ai accompagné pendant plusieurs mois, et effectivement, un jour, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a raconté, oui, il m'a dit, quand je vous ai vu, j'ai eu l'impression qu'il y avait... j'étais dans une gare, et il y avait les rails d'un train, et il y avait les rails qui allaient d'un côté, c'était fini, et il y avait l'autre, c'était l'infini. Et grâce à Annabelle, j'ai pris l'infini. J'ai dit « Waouh !» C'est le rêve de mon projet de n'étoile. Je pense que c'était ça. Et il l'a mis en mots comme ça. J'ai dit « Ben voilà, c'est ça. Une étoile propose l'infini. »
Ah oui, c'est magnifique. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre notion dont vous parlez, qui est d'accepter le démuni qui est en soi. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Parce que c'est une notion très puissante à explorer, je trouve.
Ah oui, alors, et à vivre, alors c'est très 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 fort. Mais comme je disais, une étoile aussi, quand je suis en personnage comme ça, je suis très, comment dire, je suis très connectée à mon honnêteté. Je suis très très honnête et je donne cette honnêteté, toujours. Je suis toujours très très honnête. Et il m'est arrivé des fois de ne pas savoir quoi faire. Ouais. C'est quand même bien légitime, je ne sais pas. Et je me souviens, et c'est là où j'ai vraiment insisté sur ce démuni, c'était une rencontre avec un patient, je vais le voir, il y a son fils qui est là, et ce patient est vraiment en fin de vie, et son fils est un adolescent. Et alors là, parler à un adolescent en étant une étoile, je me dis, dis donc, ça va pas être facile, parce qu'il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, comme ça, bref. Et je vais le voir, et je voudrais tellement être une ressource pour lui. Et lui, il n'est pas évident avec moi. Enfin bref, il n'est pas évident avec lui. Quoi. Il est, oh, je le sens dans sa respiration. Il a envie de pleurer, puis il ne pleure pas du tout. Et puis, donc, il se tourne vers la vitre. Donc, il y a son père qui est au fond. Et puis, on est tous les deux à regarder la vitre. Et puis, à un moment donné, je lui parle en honnêteté. J'ai dit parfois, mais ça va parler de moi. Et j'ai conscience que ça peut aussi parler de lui. Mais je ne veux parler que de moi. J'ai dit parfois... On ne trouve plus les mots. On ne sait pas. Mais je l'ai dit avec tout mon cœur pour cet être, cet adolescent. Et cet adolescent vit la même chose avec son père. Mais je l'ai dit en tout amour, toute honnêteté. Au moment où je dis ça, je vois ses larmes qui coulent. Et donc je continue. J'ai dit, on ne sait pas. Mais peut-être, parce que je vois ses larmes et je sens que là, je peux peut-être accompagner. Peut-être qu'on peut... On peut dire merci, peut-être qu'on peut laisser des mots. Quand même, dire merci. J'étais d'accord. Et puis là, il baisse un peu la tête. Et c'est comme ça que je vais noter en quoi il peut dire merci à son père de ce qu'il a transmis, de leur lien. Alors, c'est des petites choses que je note sur un post-it vite. Et après, je lui dis, on peut lui remettre à ton papa, mais quand tu veux, maintenant, beaucoup plus tard. C'est toi qui décides. Il n'a pas voulu maintenant. J'ai dit, tu sais, je vais le donner au docteur. Et on l'a remis au docteur. Et c'était leur histoire après, pour le moment où ils pourraient le remettre. Et l'endroit de la bascule, c'est au moment où j'ai dit que j'étais démunie. Et d'ailleurs, alors après, j'en ai parlé en transmission. J'en ai parlé justement au médecin, parce que le médecin, je remettais le... Je dis, voilà, il y a quelque chose de très précieux. Là, c'est les lettres d'amour pour son papa. Et je lui dis comment c'était passé. Et il m'a dit, c'est incroyable. Il dit, je pense que nous, en tant que soignants, on ne dit jamais qu'on ne sait pas. Il dit, moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais dit que je ne savais pas. Et j'ai dit, bah, c'était l'endroit de la rencontre. Il y a tout qui est arrivé par là. Et là, je me suis dit, il faut que je l'accepte, cet endroit. Et j'ai vraiment des histoires comme ça, où j'accepte d'être démunie. Ah oui, j'en ai vraiment d'autres. Et ça partait de là. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je le dise aux soignants, que je le dise à tous, parce que vraiment, les accompagnements ont marché, entre guillemets. Il y a eu des bascules, il y a eu vraiment des résolutions, parce que j'étais démunie, que je l'acceptais. On ne sait pas tout. Pourquoi il faudrait toujours qu'on soit super puissant? Il faudrait toujours qu'on ait les solutions à tout. Mais non. Et c'est peut-être une posture de même de supériorité de croire qu'on peut tout. Mais là, je pense que j'étais à égalité avec lui. Je ne sais pas, mais je suis là. Ouh, j'aime beaucoup cet endroit. Et il n'est pas du tout confortable. Je préfère savoir. Mais en ne sachant pas, il y a quelque chose d'immense qui peut arriver.
Oui, c'est donner et entendre sa vérité, en fait. Et c'est ça qui touche.
Mais c'est ça. Je pense que quand on est là-dedans, il y a tout qui est possible aussi pour l'autre. Il peut dire aussi. Parce que si on dit toujours, oui, tu pourrais faire ça, tu sais, si c'est pas... ça fait qu'il y en a un qui sait, l'autre qui sait pas. Mais non, non, on ne sait pas ensemble, mais on est là. Un bel endroit du cœur.
Et vous proposez aussi des spectacles et des conférences. Quel est votre chemin aujourd'hui pour propager ce leitmotiv d'être en joie pour vivre sa vie?
Oui, d'être en joie pour vivre sa vie, d'être en joie pour accompagner, c'est très important. Alors, Dieu sait que les soignants ne vont pas bien en ce moment. Donc, ça fait des années que je donne des conférences-spectacles. Alors, je peux donner des conférences-spectacles parce qu'on me demande. Mais en fait, je réponds aux demandes. Donc, des fois, c'est des demandes d'hôpitaux. Je vais donner des conférences-spectacles à l'hôpital. Des fois, ce sont des centres de formation, les IFSI, pour infirmiers. Et parfois, ce sont des congrès qui réfléchissent sur la question de la mort et de l'accompagnement. Et alors, tout ça, je le fais en Annabelle parce que... En fait, c'est parce que cette Annabelle aussi, elle ouvre le cœur. Et puis, bon, je transmets d'une manière très particulière. Donc, j'ai cette transmission qui est un peu atypique. Mais parce que ma pratique à l'hôpital était atypique. Donc, je reste dans le côté atypique. Et puis après, oui, après, je peux aussi donner des formations, des fois à l'hôpital. Ou je forme aussi des bénévoles. Voilà, en respectant aussi leur ADN et ce qu'ils amènent. Mais moi, j'insisterai sur... Mais est-ce que tu es dans la joie en tant que bénévole quand tu vas les voir? Ah oui, mais parce que la joie est une puissance. Et la joie est un chemin. Et la joie, mais ça va être... Hein, mais oui, tellement le socle. Je l'ai tellement appris. Ils m'ont tellement appris ça, les patients, que je transmets ça.
Vous accompagnez uniquement les adultes, hein, pas du tout les enfants.
Non, alors il se trouve que j'ai une étoile qui est sur l'île de la Réunion, d'ailleurs, qui a ouvert l'accompagnement palliatif. Alors elle accompagne les enfants en fin de vie chez eux. Et parce qu'en fait, il y a un peu une carence au niveau des unités palliatives pour enfants. Hein, c'est pas forcément très développé. Donc, et elle, c'est la première étoile qui accompagne les enfants en fin de vie. Ça, c'est merveilleux. Et moi, par contre, l'endroit de la joie pour les enfants, ça s'est vraiment imposé en moi. Et ça fait vraiment plusieurs années que j'ai basculé et je transmets l'enseignement de la joie. Et là, j'ai créé un dispositif pour les écoles, Terre de Joie. Mais j'ai quitté l'hôpital, en fait. Donc, je n'accompagne pas les enfants à l'hôpital vers plus de joie, mais j'accompagne tous les enfants. Je voudrais bien qu'à l'école, il y ait une éducation à la joie. Parce que... En fait, et ça rejoindra le début de notre entretien, quand on a parlé de la vie et de la mort ensemble. Et ça peut paraître curieux, je sais que pour les gens qui me suivent, qui m'ont tellement connue en tant qu'étoile pendant toutes ces années, puis en plus fondatrice, et puis je donne beaucoup de conférences, spectacles, et d'un seul coup, ce moment où je m'intéresse autant à l'enfance. Mais parce que j'ai tellement accompagné les gens en fin de vie, je me suis aussi rendu compte d'une chose, et je l'ai dit au début, qu'on meurt bien quand on a bien vécu. Peut-être le dire aux enfants tout de suite. De bien vivre, c'est de connecter une joie. De trouver des espaces en soi sur peut-être ce qui ne meurt pas. Qu'est-ce qui ne meurt pas? Attention, vaste question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne meurt pas en soi? Et surtout, est-ce qu'il y a une... comment on peut explorer cette joie? Une joie intérieure qui n'aurait pas de raison. Donc, je me suis engagée depuis plusieurs années sur l'éducation à la joie dans les écoles. Et pour moi, c'est la suite... D'ailleurs, je ne peux pas quitter la fin de vie, et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais encore ce podcast. Je ne peux pas quitter cet endroit parce que je l'ai tellement connu et j'ai vraiment des choses à dire dans l'accompagnement. Mais j'ai des choses aussi à dire pour le début. Le début et la fin. Ouais, et ben prenons soin de ces deux endroits. Et après, le milieu, on se débrouille. Hein. Mais prenons soin d'être dans la joie au début. Et mettons du sens dans notre vie, c'est-à-dire que si on connecte à cette joie intérieure, mais qui dit joie dit aussi générosité, empathie, altruisme, principe coopératif, c'est ça la joie, hein, la joie d'être ensemble, la joie d'être bien avec soi, la joie d'être ensemble, oh là là, ça va commencer à faire une jolie vie ça. Et après, bah, c'est la fin, c'est comme une plante, hein, on l'arrose, elle pousse, elle fleurit, et après, tac, elle retourne au sol. Où est le drame? Il n'y a pas de drame. Mais la fleur a bien fleuri. Donc j'essaye de semer des graines de joie pour faire des jolies semences, un bouquet, un joli champ fleuri, et puis qu'à la fin, bah, les fleurs, elles meurent, bah, c'est pas grave, après ça va recommencer. Et il y a d'autres cycles. Il ne faut pas avoir peur de l'impermanence, et préparer les enfants à l'impermanence et en même temps, il y a une joie pleine, sans raison, c'est très très important. C'est vraiment important. Donc c'est aussi mon socle de vie actuel, quoi.
Quel beau programme ça, pour nous, mais aussi et surtout pour les générations à venir, pour être plus épanouis, plus heureux de vivre en dépit de l'adversité, plus à l'écoute les uns des autres. Merci vraiment Sandra pour toutes ces pépites et ces rappels qui font du bien. Et avant de terminer, Sandra, j'aimerais savoir si tout ce parcours que vous avez eu et que vous avez encore, toutes ces rencontres, ces ouvertures de cœur en abondance, est-ce que ça vous a transformé ou est-ce que vous aviez déjà tout là et vous êtes allé explorer un peu plus en profondeur grâce à tout ce que vous avez vécu?
Alors, ça m'a transformé, ça m'a apaisé. L'endroit où je suis beaucoup plus apaisée, c'est je sais qu'on peut vivre des instants de joie, mais même les plus grandes joies. J'ai vu des personnes, hein, quand même, en accompagnement, qui m'ont dit avoir vécu là une joie qui est peut-être la plus grande joie de leur vie. Et ils allaient bientôt mourir. Donc, je sais qu'il y a des grandes joies possibles. Et alors là, cette grande joie, c'est la joie du lâcher prise. Donc, c'est comme si d'avoir fréquenté ces endroits, ça m'apprenait à me dire que la plus grande joie, c'est le lâcher prise. Apprends cet endroit. Lâche prise. Waouh ! Mais quand on lâche prise, on lâche prise, on lâche avec ses émotions, on lâche le, comment dire, l'attachement en fait. En fait, c'est ça. En fait, c'est une préparation à se détacher. Et la grande joie est aussi dans le détachement. Alors, j'ai pas dit que j'ai réussi, mais par contre, je m'habitue. J'ai voulu fréquenter autant cet endroit pour m'habituer à lâcher, pour m'habituer à avoir confiance, pour m'habituer à connecter quelque chose de plus grand au moment où ce corps est tellement douloureux. L'endroit où je suis pas vraiment apaisée, c'est que je trouve que le corps est souvent un corps de souffrance avant de mourir, et j'ai un peu peur de cette souffrance physique. D'ailleurs, je rejoins beaucoup la parole des patients avant de mourir. Ils disent « mais j'ai pas tellement peur de mourir, par contre j'ai peur de souffrir physiquement ». J'ai peur de cette souffrance parce que j'ai vu aussi que parfois on n'arrivait pas à la calmer. Et ça, c'est une vérité, hein. Alors après, heureusement, il y a la sédation. Donc on peut vraiment sédater profondément, mais heureusement, parce que parfois il y a des souffrances qu'on ne peut pas enlever. Donc j'ai l'impression que oui, ça m'a transformée et ça m'a donné l'envie de vivre encore plus mon présent. Mais d'ailleurs, je pense que c'est la caractéristique des personnes qui travaillent en soins palliatifs. Parfois, des fois, on riait de ça parce qu'ils prenaient un week-end comme ça. Ils allaient, je ne sais pas, aller un week-end en Italie d'un seul coup. Ils font un aller-retour, puis ils me disent « oui, mais la vie, c'est maintenant ». Et on était complices de ça. Et combien j'ai des patients jeunes qui m'ont dit « mais Annabelle, mais dis-leur ». C'est pour ça que j'ai fait un TEDx d'ailleurs, dans ce sens-là, en disant « mais dis-leur que la vie c'est précieux, mais qu'ils ne la perdent pas dans des broutilles ». Je vois que c'est ça que ça m'a appris. Plein de fois je me dis « toi, il n'y a pas mort d'homme, hein, cette fameuse phrase, il n'y a pas mort d'homme. Est-ce que c'est grave ?» En fait, ça m'a permis de montrer qu'il y a très peu de choses qui sont graves, et des choses qui sont embêtantes. On peut être malheureux, on peut perdre des fois même la joie, hein, par moments. Mais est-ce que c'est grave? Et ça m'a appris aussi que je peux me dissocier. Je peux être malheureuse en apparence, mais que j'ai un socle de joie immense. Ça, c'est d'avoir expérimenté Annabelle à l'hôpital. C'est-à-dire que des fois, je n'allais pas tellement bien. Il fallait que j'aille à l'hôpital. Et j'étais dans une joie. Je dis, mais c'est quoi cette joie? Mais sans nuage aucun, alors que moi, je n'allais pas bien. Après, je quitte Annabelle et ça y est, je me rabougris. Je fais, ah, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a un endroit en moi qui est un espace de joie totale. Mais il y a mon ego qui récupère toujours des trucs pour dire « ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Donc oui, c'est un endroit d'expérimentation, j'ai beaucoup appris. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de transmettre ce que les patients m'ont appris, parce qu'on ne l'a pas dit, mais je sais que vous êtes sensible à ça, le fait que l'accompagnement, c'est 95%, l'accompagnement, c'est l'autre. Hein, ce n'est pas moi qui accompagne, c'est l'autre qui accepte d'être accompagné. Et ils sont extraordinaires, ces patients que j'ai rencontrés. Donc oui, c'est un processus de transformation en moi et d'amour de la vie, d'amour du vivant, et surtout de se dire, faisons en sorte que notre vie ait du sens, Donnons, mais ça c'est ma vie et ma vision, hein, de faire que notre vie soit un grand acte d'amour, qu'on offre le meilleur à la terre, qu'on offre le plus grand de nous. Je pense que quand j'ai été une étoile, quand je fais terre de joie, j'offre le plus grand de ma vie à cette terre. Mais alors, moi je peux vous le dire, je suis prête à mourir. Parce qu'avec ce que j'ai fait, oui, je suis remplie. J'ai donné la plus grande version de moi-même, j'en suis persuadée. Je ne pouvais pas donner mieux. Je peux mourir. Et c'est ce que je souhaite à chacun. Donnez la plus grande version de vous-même. N'ayez pas peur de vivre. N'ayez pas peur de vivre. Parce qu'on parle toujours de « j'ai peur de la mort », mais les gens ont peur de vivre. N'ayez pas peur de vivre.
Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Il n'y a pas de meilleure conclusion. Merci beaucoup, Sandra.
Merci, merci pour ces questions et merci de m'avoir permis de dire mon essentiel aussi, parce que ça, c'est ma grande joie de partager cet essentiel. Merci vraiment beaucoup.
Je vous propose de retenir trois des pépites que Sandra nous a partagées aujourd'hui. La première, c'est que la joie est une émotion qui surgit spontanément. C'est une expérience qui nous rend plus grands. La deuxième, c'est de reconnecter les personnes que vous accompagnez à ce qui est sacré pour elles. La troisième, c'est la certitude que la joie est possible au seuil de la mort. La question n'est alors plus combien de temps il reste à vivre, mais comment vivre le temps qu'il reste. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt !